Alors, c'est un colloque, comme vous savez, on est très attaché au présentiel parce qu'on en a marre des mondes virtuels. Néanmoins, pour ceux qui ne connaissent pas, Olivier de UB Sasseville, qui est post-doctorant au Centre d'études supérieures de la Renaissance avec moi pendant 2 ans, c'est ça ?
En gros, et qui nous présente une communication aujourd'hui intitulée « De skinhead à leader politique, trajectoire d'insertion et d'intériorisation des normes politiques » chez Fabrice Robert. Et tu vas peut-être nous expliquer avant tout qui est Fabrice Robert. Merci beaucoup, voilà. Olivier, tu peux y aller.
Bonjour tout le monde, merci à l'organisation de la conférence, à Solveig, Luc, à Manu, Hyacinthe et à tous les autres. Merci aux panélistes. Et à tous les gens qui sont présents. Malheureusement, je vois personne, donc j'espère que vous êtes là en grand nombre. Comme Solveig l'a dit, je suis post-doctorant avec eux au PIND et je travaille en fait avec Philippe et sur un livre avec Philippe, mais sur d'autres projets d'articles aussi avec lui. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Fabrice Robert. Je vous expliquerai au cours de la présentation qui il est en fait. Bon, ce qui est important de dire, c'est que la communication que je fais aujourd'hui, c'est en fait extrait d'un article sur lequel je travaille, qui n'est pas encore terminé. Et ça fait également partie justement du projet de postdoctorat que je fais sur une analyse plus large des mouvements skinhead en France dans les années 80 et 90. Dans ce projet-là, en fait, on a interviewé près de, je crois que c'est 45 personnes, bon, des longues entrevues, 2-3 heures et tout. Et dans ces entrevues-là, en fait, celle de Fabrice Robert était une des entrevues qui était les plus intéressantes, en fait, parce qu'il est différent en fait des autres skins de par son implication politique qui va s'inscrire à la fin des années 90 dans les années 2000 même jusqu'à aujourd'hui dans des milieux politiques notamment au sein des identitaires, ce qui était le bloc identitaire comme on verra puis qui devient les identitaires qu'aujourd'hui. Et en fait c'était une des plus politisées, des plus intéressantes parce qu'il détonnait en fait avec les autres skins qu'on a interviewé. Donc, l'idée centrale de la présentation, ça va être d'analyser un peu la façon comment, en fait, Fabrice Robert et l'extrême droite se sont appropriés les idées et la politique de Gramsci, donc qui est un communiste italien, et de voir comment, en fait, s'inscrit le parcours, justement, d'un skinhead dans la politique mainstream et dans la construction d'un univers qui intègre les codes d'une politique mainstream qui est hyper normée, en fait. Donc, on va voir comment Robert s'approprie, en fait, à son compte les idées de Gramsci pour mener à bien son projet politique. Donc, en fait, juste avant, on va juste voir un peu ce qui était les idées de Gramsci, la métapolitique et tout ça. Donc, Gramsci, ayant posé la solidarité de la pensée humaine quotidienne et de la philosophie, va proposer d'établir une équivalence entre philosophie et politique. Donc, il faut rappeler que pour lui, en fait, la politique se réfère justement à la praxis transformatrice qui lie chaque être humain à son environnement social. Donc, philosophie et politique poussent donc sur un même terreau qui est celui de la vie sociale dans sa réalité la plus élémentaire. Donc, l'action politique ne saurait se réaliser sans philosophie et vice-versa. Donc, d'une part, on voit en effet que tout projet politique appelé à agir sur la société va reposer sur une pensée normative de la vie collective. Et d'autre part, toute conception de la vie porte en germe une praxis et recèle soit de façon implicite, soit de façon masquée, une volonté de réforme de l'être social. Donc, cette espèce d'idée-là d'association de l'extrême droite et Gramsci est pas fondamentalement nouvelle. En fait, elle commence à faire de plus en plus son chemin dans les milieux universitaires et académiques. Et surtout, en fait, elle est utilisée pour analyser l'alt-right américaine, en fait, qui est ce que les Américains appellent le culture war, en fait, entre la droite et la gauche et comment chaque côté essaie de gagner, en fait, le terrain plus métapolitique. Mais le cas de Fabrice Robert paraît intéressant parce qu'il précède en fait tous ces mouvements-là, c'est dès les années 90 et surtout dans les années 2000. Et il est aussi l'un des plus intéressants en fait parce que c'est il revendique en fait avec beaucoup plus de clarté en fait que tous les autres mouvements que je connais cette filiation-là. Donc avant de parler de Fabrice Robert, en fait c'est important de faire un petit retour sur le lien entre la OI et la politique. Mais pour faire ça, en fait, je vais citer Matthew Worley, que certains d'entre vous connaissent parce qu'il travaille beaucoup avec le Punk Scholars Network en Angleterre. Et bon, qui a collaboré, en fait, sur plein de projets de conférences et tout avec des gens qui sont impliqués dans le groupe de recherche. Worley, en fait, dit que, je vais citer en anglais pour être plus près de ses propos. Donc, il dit, significantly to the politicization of youth culture led to some cultural identities being bound up with the affinity to the National Front and British Movement. In particular, an element within the revived skinhead movement aligned itself to the far right, sometimes out of a distorted sense of nationalism, or racial prejudice, sometimes simply as an antisocial provocation designed to intimidate, irritate and reaffirm a feeling of detachment from mainstream society. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que bien qu'il existe des, évidemment des rapprochements de l'extrême droite et les mouvements Skin et La Hoye, il y a aussi cette espèce de provocation antisociale, de rejet de la société et de ses codes, et de rejet surtout de la politique organisée et, bon, des grands partis et des systèmes politiques, bon, dans sa forme électorale. Worley enchaîne en disant, first, those associated with Hoye communicated a very real sense of disengagement from politics in general and mainstream politics in particular. In other words, Hoye expressed a form of anti-politics that opened the way for contact with organization on the political fringe, but more typically led to an expression of class cultural identity rooted in the local community. Donc, en fait, il reprend cette idée-là qu'on disait, on est assez proche du no future du punk, du rejet de la politique, du rejet, en fait, de ces formes organisées-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est que Fabrice Robert, en fait, lui s'inscrit, en fait, à l'opposé de ça, il va plutôt essayer d'intégrer une espèce de réflexion politique plus organisée dans son parcours, en fait. Parallèlement, en fait, à la façon à laquelle la Hoye et les Skins se sont désintéressés de la politique organisée, il y a un autre courant en France qui existe dans les années 70 et duquel Fabrice Robert sera l'héritier. C'est celui, en fait, de la nouvelle droite et de l'intériorisation, en fait, de la politique de Gramsci à ce courant politique-là. Donc, il est intéressant de voir et de noter que Robert, qui lui est un nationaliste révolutionnaire autoproclamé, va directement se référer à Gramsci, qui est évidemment un communiste, avec une grande admiration. Donc, c'est important déjà de dire que c'est pas le seul. Comme je le disais, il y a le alt-right qui s'y réfère. Même en Europe, il y a des gens comme Matteo Salvini maintenant en Italie, même Marion Maréchal Le Pen en France. Et même des politiciens d'une droite plus classique qui vont clamer cette référence, cette filiation-là. Donc, on voit en fait comment les références à Gramsci vont être essentielles pour comprendre leurs objectifs et leur façon de faire de la politique. Ce passage-là, en fait, moi, je le vois en fait comme un espèce de passage du politique d'abord à la métapolitique. Et en France, c'est dans les années 70 qu'un changement tactique va s'opérer pour l'extrême droite française. Alors qu'elle était historiquement alignée sur un idéal maurassien du politique d'abord, et par conséquent, embourbée dans l'action politique et militante violente, l'extrême droite française va découvrir les travaux du communiste italien Gramsci et va appliquer sa vision d'une lutte métapolitique à sa vision du monde de droite. Donc, comme on voyait, en fait, si l'héritage de Charles Maurras, qui était le leader historique de l'action française et le théoricien du nationalisme intégral, suggérait, bon, aux militants nationalistes un engagement politique profond, une partie de la nouvelle génération des idéologues d'extrême droite va plutôt choisir une lutte culturelle pour reprendre les mots de Gramsci, pour l'hégémonie. Donc, autour du groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne, donc ce qu'on a appelé le GRES, vous voyez en fait la photo un peu de leur logo, qui est un espèce de think tank de droite qui a été fondé par des gens comme Alain de Benoît, Jean Mabir et Dominique Vénère, va s'organiser ce courant-là qu'on a appelé la nouvelle droite. Donc, à l'instar de Gramsci, cette nouvelle droite-là va concevoir la lutte pour l'hégémonie culturelle comme une condition sine qua non d'une éventuelle victoire politique. Donc, en reprenant les écrits de Gramsci, pour qui, bon, la victoire politique des classes populaires passerait nécessairement par une domination culturelle qui conduit à une adhésion spontanée de la majorité de la population à ses conceptions marxistes du monde, la nouvelle droite va entreprendre une lutte qui allait devoir être de longue haleine, en dehors des partis politiques, pour tenter de faire basculer l'opinion publique dans le camp du nationalisme et préparer le terrain pour une éventuelle conquête politique. Donc, c'est là qu'arrive Fabrice Robert, qui, nationaliste révolutionnaire depuis toujours, est affirmé, qui vient d'une famille de militaires, donc de père et de grand-père. En fait, Fabrice Robert est né à Orléans et son engagement commence à Strasbourg vers la fin des années 80, où il va trouver les punks et les skinheads, et qui va commencer à les rejoindre. Comme Phil le disait, Philippe Roisès, dont Solveig a parlé, qui était là hier, présenté lors de la dernière journée de peine en octobre dernier ou septembre dernier. Dans le cas du Parc des Princes, par exemple, le football n'était pas nécessairement, les supporters, les skins n'étaient pas nécessairement hyper radicalisés, politisés au point de recruter tout ça. Mais dans certaines autres régions, ça a été un peu plus le cas. Et c'était notamment le cas de Strasbourg où était Fabrice Robert. Donc, en fait, il utilise le football pour rencontrer des gens et il voit commencer à se développer une espèce de vision binaire du monde où d'un côté, il y aurait les punks qui étaient anarchistes et les autres, les skins qui seraient nationalistes. Fabrice Robert va partir à Nice en 88-89 et il va rencontrer beaucoup de gens impliqués politiquement par le biais d'organisations politiques d'extrême droite comme Troisième Voie et le PNFE, donc le Parti Nationaliste Français Européen. Comme il le dit lui-même, il est un peu à cheval entre ces deux mondes-là, donc d'un côté de la politique un peu plus organisée, de l'autre du côté des skins qui est plus brut, plus rue, plus violent et tout ça. Et il va par contre s'inscrire à l'université à Nice où son engagement politique va se développer davantage. Donc en 95, notamment, il va être élu conseiller municipal pour le Front national à La Courneuve. Il va rejoindre ensuite le mouvement nationaliste républicain. Et son travail plus métapolitique donc, il va se développer autour de la création, par exemple, de Novo Presse au milieu dans les années 2000, qui va être un organe de presse. Et il va commencer justement à juger le FN et le MNR un peu trop timides. Et il va fonder le Bloc identitaire en 2003, qui va présider dès le départ. Comme je disais tout à l'heure, le Bloc identitaire va devenir les identitaires, pour ceux qui ne savent pas, qu'on connaît maintenant et qu'on voit un peu partout maintenant, malheureusement, mais qui prennent de plus en plus de place depuis une dizaine d'années dans le paysage politique français. Ce que je trouve intéressant, c'est les deux citations que je vous ai mis là sur la diapo, où Fabrice Robert revendique de façon très frontale et très directe cette filiation-là avec Gramsci et dans sa volonté de faire de la politique. Il va dire, bon, en fait, on a imposé des concepts dans le champ politique qui aujourd'hui sont repris par tout le monde. En fait, en 2002-2003, quand on lance les identitaires, on parlait de localisme, de grand remplacement, d'islamisation, etc. Il raconte, j'ai eu des procès, j'ai été accusé d'être un horrible fasciste par la presse du système, et maintenant vous regardez Zemmour à la télé, il ne parle plus que de ça, et vous avez vu le nombre de personnes qui vont voter contre lui, pour lui. Évidemment, bon, cette interview-là a été réalisée avant l'élection présidentielle. Finalement, il n'y a pas autant de monde qu'on croyait qui ont voté pour Zemmour, heureusement. Mais on voyait en fait comment s'est développé en fait cette volonté-là en fait d'introduire dans le discours mainstream de la politique des idées qui étaient hors du champ de la politique mainstream. Et il enchaîne en disant, parce que j'ai toujours eu une approche du gramschisme, j'ai toujours considéré que le combat culturel était presque plus important que le combat politique électoral, et je l'ai souvent répété dans les réunions des identitaires. D'ailleurs, j'ai toujours considéré qu'en fait, pour réussir à conquérir le pouvoir, il fallait conquérir les esprits. C'est la démarche classique des gramschistes. Je vois la musique, mais ça peut être aussi la bande dessinée, la littérature, le cinéma, le théâtre, etc. Mais la musique peut jouer un rôle extrêmement important pour convaincre les gens. Donc, on avait vu en Angleterre, évidemment, un cas classique, celui de Ian Stewart et de Screwdriver, qui avait utilisé cette espèce d'approche-là par la musique pour politiser la scène skin, et qui est reprise par Fabrice Robert, qui a encore poussé plus loin. Donc, on le voit créer un label de riff, donc de rock identitaire français, qui va s'appeler Bleu Blanc Rock. Il a joué dans plusieurs groupes, un groupe qui s'appelait Fraction Hexagone, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle seulement Fraction maintenant, qui, bon, s'inscrit dans la lignée du RAC, donc du Rock Against Communism, et qui porte et qui pousse les idées d'extrême droite dans les scènes punk. Donc, en fait, tout ce parcours-là montre cette espèce de volonté de s'inscrire dans la politique, et on voit, en fait, comment aussi c'est, si on peut dire, déskinisé, en fait, terminer le bombers, le jeans bleaché, il a repoussé ses cheveux, et quand on le voit en interview, c'est toujours une manche longue pour cacher les tatouages et tout ça. Donc, on le voit s'inscrire dans une démarche qui est beaucoup plus politicienne, plus normée, plus codifiée que celle qui était l'esprit du punk et des skins de l'époque. Donc, juste pour terminer, en fait, c'est compliqué d'arriver à des conclusions formelles parce que je suis encore en train de travailler dessus et la présentation que je fais là est seulement un angle et une partie de ce que sera l'article. Mais mon sentiment général, c'est que l'analyse justement gramschiste du développement de l'extrême droite dans le monde occidental au XXe siècle, en particulier en France, est une voie qui est importante de suivre pour comprendre en fait le développement et de voir comment le punk et la musique ont pu jouer un rôle dans cette affaire-là en fait de normalisation politique. Je trouve que c'est assez effrayant d'avoir à admettre que la normalisation des idées haineuses et l'espèce de geist général de notre société se déplace assez rapidement vers la droite au cours des 10 à 15 dernières années. Je pense qu'il, bon, même s'il est parfois assez difficile de bien quantifier ça, parce que bon, chaque idéologie politique, chaque côté a sa propre chambre d'écho qui est toujours amplifiée par les médias sociaux et tout ça, j'ai quand même l'impression que la conversation de bistrot entre gens normaux a changé assez radicalement dans ma vie dans les 10 à 15 dernières années. J'ai l'impression qu'elle passe de plus en plus à droite et que ce concept-là, cette vision du monde-là se normalise grandement. Donc, dans le parcours de Fabrice Robert, on observe en fait ce double rapport-là à la norme. Donc, d'une part, on voit l'intégration graduelle de son activité politique dans le monde de la politique mainstream, qui est fortement codifiée et normée, et qui se situe à l'opposé des valeurs du no future, du punk et cette attitude antisociale, antipolitique, tout ça. Et aussi, également, du rapport de la rue et de la culture skin, justement, avec ce refus-là de la politique organisée. Et de l'autre côté, on voit aussi que la volonté de mettre de l'avant, en filiation avec les écrits de Gramsci, une espèce de processus de création de normes sociales qui va être associé aux valeurs de la droite, donc de nationalisme nativiste, de rejet de l'immigration, de rejet de l'islam, tout ça, va être un facteur important dans son parcours. Donc, il est intéressant, en fait, de voir comment cette bataille culturelle-là et la façon dont se normalisent les idées de la droite et la façon par laquelle l'extrême droite continue à dire que les médias traditionnels ont un parti pris pour la gauche est assez intéressant. Et ça, juste pour terminer sur une petite anecdote, en fait, vous voyez, en fait, on entend toujours les gens d'extrême droite dire qu'il y a un billet de gauche dans les médias. Je pense que c'est de moins en moins vrai. On voit les médias, justement, porter ces voix de droite et d'extrême droite-là de façon beaucoup plus claire dans les dernières années. Et Fabrice Robert continuait à dire « oui, on peut jamais rien dire, non, non, non ». Et je lui faisais remarquer, en fait, que la situation changeait, que c'était de moins en moins vrai, que bon, il y avait plusieurs médias, au contraire, qui portaient ces idées maintenant, qui étaient inacceptables dans les années 90-2000, qui sont tout à fait normales maintenant. Et j'ai vu dans son visage une espèce de sourire satisfait de quelqu'un qui avait gagné une bataille importante, en fait. Et ouais. Donc voilà, c'était ça. Donc je vous remercie. Puis merci à tout le monde. Et si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre.
Merci beaucoup, Olivier. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup d'avoir éclairé un peu sur le contexte politique dans lequel, effectivement... effectivement, le projet PIN au sens large serait introduit. Ce que je vous propose, c'est on continue sur la communication de Vincent, du coup, d'affilée. Comme ça, après, on pose 5 minutes de questions.